France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La dette est une urgence nationale. Nous sommes au bord du surendettement. Notre pays est en danger. C'est François Bayrou qui parle lors de son intervention de lundi. C'est un petit problème, la dette. Il se règle si nous avons les bonnes solutions. Ça, c'est à l'autre bout du spectre. En l'occurrence, une phrase de Jean-Luc Mélenchon, ici même, sur France Inter, mardi matin. Au milieu, il y a nous tous qui entendons tous ces discours, qui sommes en majorité, bien sûr, bien conscients que oui, la dette a augmenté. Ça, c'est un fait. 3 345 milliards, 113,9% du PIB cette année. Mais nous ne savons plus très bien si nous sommes au bord du précipice ou juste fragilisés, à deux doigts d'une crise de la dette ou pas très loin de ce plongeon. Un jour, nous sommes en Grèce, en 2010, un autre, on nous rappelle que l'Espagne n'a pas bougé, n'a pas de budget non plus depuis deux ans et qu'elle ne s'en sort pas plus mal. Alors est-ce que c'est vraiment 44 milliards qu'il faut aller chercher? Est-ce qu'on s'en sortirait tout autant avec la moitié ou moins encore? Et d'ailleurs, combien? Est-ce que couper 44 milliards, ça s'appelle l'austérité? Est-ce que les conséquences de ces coupes, c'est ce qu'on appelle un effet récessif? C'est-à-dire que le remède deviendrait pire que le mal. Pourquoi, semble-t-il, nos voisins s'en sortent mieux que nous, y compris les Italiens qui empruntent moins cher? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait mal? Est-ce que notre instabilité politique est finalement plus délétère que la profondeur de notre dette et qui freine à la fois les entreprises et notre consommation? Tout ça, bien sûr, sans compter les effets extérieurs. Donald Trump a promis de retaper sur nous si on ne libère pas tous les géants du net de toute contrainte, ce qui risque peut-être de changer encore une fois la donne. On entend aussi monter la musique d'un chaos mondial, d'un éclatement notamment de la bulle de l'IA. Dans quel panier doit-on mettre nos œufs? Dois-je planquer mes billets dans les manches de mes pulls au fond du placard, attendre que ça passe en espérant mieux ou danser sur le volcan? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première question nous vient de WhatsApp, puisqu'aujourd'hui je les lis, vos questions ainsi que vos notes vocales si vous souhaitez nous en envoyer. Julien donc nous dit ceci: la dette m'inquiète évidemment essentiellement pour des raisons de souveraineté, mais les discours alarmistes étaient exactement le même avec une dette 4 fois moindre sous la présidence Sarkozy. Alors qu'est-ce que je dois penser? Voilà pour la question de Julien. Je vais vous présenter ceux qui sont autour de la table. Votre question, Julien, a fait rire notre premier invité, Éric Heyer. Bonsoir Éric Heyer.
Bonsoir.
Le directeur du département observatoire et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous nous direz pourquoi ça vous fait rire. Il y a aussi Anne-Sophie Alsif, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef économiste de BDO France, qui est un cabinet d'audit et de conseil. Pourquoi il vous fait rire, Julien, Éric Heyer? Parce qu'il a raison, de fait?
Non, sourire, oui, c'est vrai. Que, vous voyez, on a eu un Premier ministre qui nous a dit qu'il était à la tête d'un État en faillite. La dette, à l'époque, en 2007, c'était avant la crise financière, était de 62 points de PIB. Donc, vous voyez, là, nous sommes à, vous l'avez rappelé, à quasiment 114, donc si on était en faillite à 62-63, on devrait être la mort enterrée, donc c'est un peu plus compliqué, d'accord, pour savoir quand on est en faillite que de regarder juste le seul niveau de la dette.
Mais justement, est-ce que, précisément, c'est vraiment un chiffre qu'il faut regarder, parce que ce qu'on ne sait pas trouver non plus, c'est quoi le max, en fait? Est-ce qu'il y a un max? Est-ce qu'il y a un moment où les marchés financiers se rebellent et disent non mais c'est bon là, on arrête, ça existe ce max ou pas du tout?
Mais vous voyez, oui, en sciences économiques, vous voyez, il y a les académiques qui essayent de répondre à cette question. Ouais. Et vous voyez, à un moment, on a cru avoir la réponse. C'était deux économistes célèbres, Reinhardt, Rogoff, qui ont publié dans la plus belle revue académique, l'American Economic Review, et disent, voilà, on a trouvé. C'est le vrai niveau, c'est 90 points de PIB.
Ok.
Au-delà de 90 points de PIB, ça a des effets très récessifs, ouais. Et là, c'est le bord de la faillite, et en deçà, c'est bien.
Voilà, et tout le monde est au-dessus des 90 points.
Exactement, et vous savez quoi, en fait, on s'est aperçu, quelques temps après, qu'ils avaient trafiquer leurs chiffres, et que c'est uniquement pour publier dans les grandes revues, mais qu'en fait, il est impossible aujourd'hui de répondre à cette question, et même les plus grands économistes qui ont essayé n'ont pas réussi à trouver, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, ce dont on parle, les 114 points de PIB, c'est le passif des administrations publiques. Mais vous voyez, si vous avez utilisé cette dette pour investir dans de l'immobilier, investir dans des entreprises, etc., vous avez un actif en face. Et donc, alors que si vous avez utilisé cette dette pour consommer, vous n'avez pas d'actif en face. Donc vous voyez, quand vous ne regardez que le passif, que la dette, vous ne voyez pas à quoi ça a servi, donc vous ne savez pas si vous êtes soutenable ou pas.
Anne-Sophie Alsif, du coup, comment on fait, en fait, avec les discours qu'on entend, comment on fait pour être, sérieux au milieu, entre on est la Grèce, ça va être la catastrophe, le FMI va devoir nous prendre sous son aile, et l'autre côté du spectre qui dit, au fond, la dette, on s'en fout, parce que c'est aussi ça qu'on entend à l'autre côté. Comment on fait pour être sérieux au milieu ?
Alors pour être sérieux, en effet, il faut se baser sur ce que dit la littérature. Et il y a beaucoup de papiers, beaucoup d'écrits, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser pour essayer de comprendre et de voir si oui ou non on est dans le risque. Là aujourd'hui, pourquoi on a une difficulté ? On a une difficulté pour deux éléments. Le premier, c'est vraiment la question de cette fameuse charge de la dette. C'est vrai, hein, ça a été très bien dit, hein, on a des discours alarmistes, on se souvient de certains politiques qui disaient déjà que l'État était en faillite. Mmh. Là, aujourd'hui, la grande difficulté que l'on a davantage, c'est que le poids des intérêts de nos dettes...
La charge de la dette, c'est les intérêts. Hein.
Les intérêts de la dette, hein, beaucoup d'auditeurs doivent avoir un prêt immobilier, et bien chaque mois, ils remboursent ce prêt immobilier, et bien la France, c'est pareil. Et donc, cette échéance, par exemple, au lieu de payer 500 euros par mois, et bien... Tout d'un coup, et c'est ce qu'on voit là depuis quasiment un an, au lieu de payer cette somme, eh bien, on paie plus. Mmh. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est-à-dire que dans ce budget de l'État, hein, on parle toujours de trouver des milliards et des milliards. Cette année, enfin, l'année dernière, on devait payer 50 milliards dans notre budget. C'était le deuxième poste après l'éducation nationale pour rembourser ces dettes. Et aujourd'hui, ce que nous dit la Cour des comptes, si on continue comme ça, eh bien, ce sera plus de 100 milliards d'euros qu'on devra payer.
Donc,
en
c'est
2029,
le premier budget de l'État.
Donc, le premier budget de l'État.
Mais pardon.
Donc, en fait, c'est ça la vraie question. Juste, si je peux finir là-dessus, ce que dit justement aussi la littérature, c'est à quoi est-ce que l'on veut consacrer notre budget ? Et c'est ça l'idée. Et ces 100 milliards d'euros qu'on doit payer, c'est pas un choix. On peut pas dire comme le budget de l'éducation nationale ou de l'armée, je vais payer moins. Là, vous êtes obligé d'être dépendant des marchés financiers pour payer vos fonctionnaires. Et donc, pendant que vous dépensez 100 milliards à ça, ce qui est plus difficile, en effet, la littérature le dit, hein, la question c'est d'avoir une bonne et une mauvaise dette. Cette dette, si en effet vous l'utilisez pour investir dans la recherche et le développement, pour investir dans la production, pour développer, on a parlé d'ailleurs, hein, votre outil productif, donc pour créer de la valeur ajoutée et donc de la croissance, pas de problème. Mais là, ces 100 milliards, c'est juste pour rembourser des créanciers. Et c'est ça la difficulté par rapport à nos partenaires européens. Eux, même l'Italie, hein. L'Italie, certes, est plus endettée que nous, mais quand on regarde le solde primaire, c'est-à-dire quand on retire cette charge de la dette, eh bien, eux, ils sont à l'équilibre, à la différence de nous. Eh bien, ça veut dire que vous mettez une très, très, très grande partie de votre budget pour cette dette.
Est-ce que ça veut dire aussi... Parce que ça met une grande part de budget, néanmoins, on la rembourse. Est-ce que la crainte, la vôtre peut-être, c'est qu'à un moment, les marchés financiers disent « Stop, on se détourne de la France, c'est ailleurs qu'il faut aller ?» Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre jusqu'à présent, c'est que de ce point de vue-là, rien n'a changé, en fait. C'est-à-dire qu'on reste crédible, y compris sur notre remboursement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'on passe une sorte de Rubicon, que les marchés financiers nous y obligent ? Moi, je ne lis pas ça, et donc je voudrais comprendre, en fait.
Alors, c'est ça, en fait, le grand risque. Pour l'instant, en effet, pourquoi ? Parce qu'on est dans la zone euro. Hein, on a souvent parlé de la zone euro, dire qu'est-ce que ça nous apporte ou pas. Je veux vous dire que si on n'était pas dans la zone euro, en effet, on aurait un autre discours. Donc, en effet, on est dans la zone euro, on a la Banque Centrale Européenne, on a des instruments qui existent, notamment depuis la crise avec la Grèce, hein, pour pallier lorsqu'il y a des problématiques d'endettement. Le problème, c'est quand vous avez des taux d'intérêt, cette fameuse charge dont j'ai parlé précédemment, qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Bien sûr, vous remboursez votre crédit immobilier au lieu de payer 500, on va vous demander 1000 ou 1500. C'est pas pour ça que vous allez être en faillite, que vous n'allez plus manger, que vous n'allez plus vous habiller. Mais votre vie et votre quotidien va pas mal changer. Et donc là, c'est le même. La Grèce, c'était ça. Alors, c'était des taux qui n'étaient pas du tout comparables, parce qu'on est arrivé à 16%, enfin, des taux colossaux. Allez rester dans la zone euro, mais à quel prix ? Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est quand vous avez des crises de la dette, et là, la littérature économique, et quand on regarde les crises, on le voit bien, hein, dans les PIB par habitant, ce sont les personnes les moins aisées qui paient. Ce ne sont pas les milliardaires, ce ne sont pas les étrangers, ce sont les personnes les plus pauvres, les personnes de la classe moyenne inférieure.
Anne-Sophie,
et c'est ça le risque.
Je voudrais passer la parole aussi à Éric Heyer et surtout aller vous retrouver, vous tous qui nous écoutez au Standard. Éric Heyer, est-ce qu'on est dans une crise de la dette, oui ou non ?
Non. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'a dit Anne-Sophie Altif, je suis assez d'accord pour dire que c'est effectivement les charges d'intérêt qu'il faut regarder, mais je ne l'analyserai pas comme elle. C'est-à-dire que globalement, il faut arrêter de de parler des milliards d'euros. Vous voyez, quand on parle de dette, on le ramène en point de PIB. Et là aussi, vous voyez, les milliards ne veulent rien dire aujourd'hui, parce qu'avec l'inflation, oui, ça a augmenté. Donc, il faut le ramener en point de PIB. Et là, aujourd'hui, 60 milliards, c'est 2 points de PIB. Vous voyez, alors, est-ce que c'est beaucoup? Ben, finalement, quand on regarde dans notre histoire, non, c'est assez peu. On était plutôt aux alentours de 3,5 dans les années 90. Même au moment de Fillon, on était à 2,5. Et les pays partenaires, ben, ils sont tous au-dessus de nous. L'Espagne, ils consacrent 2,5 points de PIB de remboursement de la dette. L'Italie, 4 points de PIB. Le Royaume-Uni, 3 points de PIB. Est-ce qu'ils sont en faillite pour autant? Non, vous voyez, ils sont nettement au-dessus. Donc, vous voyez, c'est ça qui à mon sens, est mal présenté. C'est pas ça qui va nous étouffer, puisque par rapport à notre richesse nationale, et vous voyez, si on fait le parallèle avec un ménage, c'est par rapport à son revenu, on en consacre beaucoup moins qu'à une époque. Alors, le problème, c'est que ça va continuer à augmenter. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut à tout prix préserver, c'est que si les taux d'intérêt venaient à rester à ce niveau-là, ben, petit à petit, on passerait à 3,5, mais après 3,5 on l'a déjà vécu, et on peut se dire oui, ça c'est dommage de consacrer autant, et qu'il vaut mieux en consacrer que deux, mais aujourd'hui les partenaires et les États-Unis font beaucoup moins bien que nous de ce point de vue-là. Alors, et ils ne sont pas en faillite.
La charge de la dette effectivement aux États-Unis doit être à 122 si je ne me trompe pas.
Ça représente quasiment 5 points de PIB, ils sont à 4,8 points de PIB, donc vous voyez, on est très très loin de cela.
On a une question sur le Japon d'un de nos auditeurs qui s'appelle Thomas. Le Japon c'est 235 je crois.
Alors en termes de dette, d'accord, mais alors là de la même manière, puisque ça appartient aux Japonais.
Alors voilà, c'était ça le sens de sa question. Il dit la dette japonaise est à plus de 200%, effectivement, mais elle est détenue par les Japonais, et l'économie japonaise me semble plus efficiente, dit-il, efficace, donc que l'économie française.
Non.
C'est une réalité, ça, ou pas du tout?
Non, elle n'est pas plus efficiente. Bah, je ne sais pas comment on mesure...
Enfin, c'est une espèce de mythe, en fait, de se dire, si la dette est détenue par nous-mêmes, parce qu'on sait bien que la dette est détenue à 60% par des investisseurs qui sont des investisseurs étrangers. Est-ce que si on détenait notre propre dette, on s'en porterait mieux, comme les Japonais?
C'est mieux, parce que vous voyez, les intérêts que vous versez, si vous les versez à votre... Vous voyez, en gros, globalement, Français, son placement, son épargne favorite, c'est l'assurance vie en euros. Mmh. Et vous voyez, l'assurance vie en euros, c'est-à-dire qu'on vous garantit votre capital. Mais quand vous prenez une assurance vie en euros, que fait finalement votre assureur, votre banquier? Ben, il achète de la dette publique. Donc en fait, si vous achetez de la dette publique, vous prêtez de l'argent à l'État, l'État vous paye des intérêts, mais vous voyez, et puis alors, donc du coup, ça reste au sein de l'économie, on peut dire, allez, pourquoi pas? Là, chez nous, c'est moitié-moitié, c'est même un peu plus d'étrangers, mais ça veut dire que les Français achètent de la dette italienne, achètent de la dette espagnole, parce que les intérêts sont supérieurs, enfin en tout cas étaient supérieurs à l'époque, et donc il y a plus de rentabilité. Donc aujourd'hui, il ne faut pas penser que cet argent dans un sous-sol, non, ça va bien dans la poche, des épargnants, et vraiment, vous voyez, les taux d'intérêt sont très faibles pour ces épargnants, ils ne gagnent pas beaucoup avec une assurance vie en euros.
Anne-Sophie Alcif, je sais que vous voulez intervenir, je voudrais rajouter un bout de question à celle de Thomas, peut-être que vous pourrez rebondir dessus en même temps que vous lui répondez à lui. C'est Liliane qui nous dit, est-ce que lancer un grand emprunt permettrait d'alléger les remboursements d'intérêts et des emprunts en France, il y en a eu, le fameux emprunt Balladur de 93, l'emprunt forcé de Mauroy en 83, je crois.
Non, parce que généralement, les taux d'intérêt sont au-dessus des taux d'intérêt de marché, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment intérêt à le faire.
Anne-Sophie Alcif.
Alors moi c'est vrai que je voulais revenir sur la partie du calcul en point de PIB en disant comme on a ce calcul, on se compare aux autres et finalement c'est pas grave, finalement on se rassure et mettons encore le sujet sur le tapis et regardons ailleurs. Le problème c'est qu'on a aussi une situation internationale et ce qu'il faut regarder c'est pas justement la dette, c'est aussi la situation macroéconomique de la France, comme notamment, par exemple, la richesse créée par habitant. Le grand problème de la France aussi, c'est que c'est un pays qui est massivement désindustrialisé. C'est-à-dire que la part de l'industrie dans la richesse créée est faible, moins de 10%. Par exemple, en Italie, c'est 16%, ou en Allemagne, c'est 20%. Et quand en France, on dit il faut investir dans la recherche et le développement, il faut investir dans la production, et que vous avez ces 100 milliards à 2029, donc qui deviennent le premier poste de dépenses, et donc c'est quand même des milliards, eh bien, c'est en moins que vous investissez dans toutes ces dépenses d'avenir qui vous permettront d'avoir plus de croissance. Plus de croissance, ça veut dire que vous allez pouvoir vous désendetter sans justement sacrifier la dépense publique. Donc, en fait, vous rentrez dans un cercle vicieux où comme vous avez ces contraintes énormes dans votre budget, même si en effet, en pourcentage, pour l'instant, au moment où on parle, mais dans plusieurs années, si on continue, on voit que dans les prévisions de la Cour des comptes, ça va être le cas, eh bien, ça veut dire que toutes ces dépenses d'avenir, parce qu'il faut le rappeler, certes, les États-Unis ont beaucoup plus de déficits, beaucoup plus de dettes, le Japon, d'autres pays, on en a beaucoup parlé, mais ils investissent dans la production, ils investissent dans la valeur ajoutée, ils investissent dans le tissu productif. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant avec le Premier ministre, c'est qu'il parle de baisser les dépenses, mais aussi d'investir dans la production. Parce que si on avait 2, 3 ou 4% de croissance, on n'aurait pas cette discussion. Donc, cette idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec, entre guillemets, ces dettes qu'on va avoir en 2029, quelle capacité on va pouvoir dégager pour investir dans la recherche, pour investir dans tout ce qui est productif, pendant que les autres le font. Et quand vous regardez nos partenaires européens, le PIB par tête de la France, vous voyez qu'on se paupérise depuis plus de 20 ans par rapport notamment à l'Europe du Nord. Donc après, il n'y a pas de problème. On peut dire que ce n'est pas grave, etc. Mais juste, il faut le dire concrètement, quelles sont les conséquences de ces choix politiques et de ces choix économiques.
Mais comment on fait pour produire de la croissance si on enlève un certain nombre de revenus? Alors ça peut être effectivement mieux réparti, là-dessus je vous suis, sur les riches et les moins riches, et puis les prestations sociales, etc. Mais comment on fait pour produire de la croissance quand on est obligé de le faire effectivement avec 44 c'est milliards ça. De moins?
Alors, là, je parlais du poids de la dette, si on arrive à 100 milliards en 2029, là, les 44 milliards. Là, ce qui était assez intéressant dans le budget, parce que là aussi, il y a une situation macroéconomique qui est très différente et qui est très inédite par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. On est sorti du Covid et de la crise inflationniste. Pendant toute cette période, on a pratiqué le fameux « quoi qu'il en coûte ». L'État s'est endetté sur les marchés financiers et a redistribué massivement aux entreprises et aux ménages pour pouvoir garder un certain niveau de vie. Ce qui se passe depuis plus d'un an avec la dissolution, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Donc vous avez un taux d'épargne des ménages record, 19% du taux d'épargne des ménages. Vous avez un niveau d'investissement des entreprises qui en berne alors que les taux d'intérêt ont baissé. Donc l'investissement aurait dû repartir parce qu'il n'y a pas de confiance. Et donc on voit que toute la mécanique est enrayée, c'est-à-dire que tout cet argent que l'on a eu aurait dû être injecté dans l'économie sous forme de consommation d'investissement et on ne l'a pas. Et donc de fait, on n'a pas cette croissance qu'on attendait.
Et la mécanique...
Et on se retrouve de fait dans cette situation.
Voilà. Et la mécanique n'a aucune chance de se désenrayer, si je puis dire, puisqu'on est à nouveau dans le contexte d'une crise politique. Vous allez répondre, Éric Heyer, mais je voudrais d'abord qu'on écoute la note vocale de Céline, on la découvre ensemble.
Bonsoir. Comment est-il possible que nous parlions de dette alors que nous n'avons jamais créé autant de richesses dans le monde ? Avec un nombre de milliardaires hallucinant. Et deuxième sujet, est-ce que notre démarche à notre main, nous citoyens, n'est pas un investissement autour de notre territoire, de là où on vit, dans des activités de PME, TPE locales, plutôt que dans des grands systèmes internationaux?
Éric Heyer, là-dessus, la question des milliardaires, elle est récurrente. Il va bien falloir y aller, effectivement, chez nos auditeurs.
Oui, mais d'ailleurs, on peut y répondre aux deux questions avec une seule réponse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la dette publique, là on parle de la dette publique, avec la dette des ménages et la dette des entreprises. Et donc, effectivement, on crée beaucoup de richesses, mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un acteur qui se paupérise, ce sont les États qui s'endettent et ils ont des dettes même qui dépassent les actifs. Et par contre, vous avez des acteurs qui s'enrichissent et vous avez un patrimoine net qui ne cesse d'augmenter chez les ménages, mais bien sûr un peu plus chez les très très riches que chez les personnes honnêtes. Donc il y a bien effectivement un acteur public qui est endetté, mais des acteurs privés qui captent cette richesse et avec des patrimoines qui augmentent de plus en plus. Donc effectivement, là on peut se dire, pendant la crise, effectivement on a été peut-être plus généreux que les autres, mais tout le monde a bénéficié à la fois des boucliers énergétiques ou du quoi qu'il en coûte. Et on peut se dire que si, et je pense que c'est ça qui n'est pas très bien fait par le Premier ministre, c'est la pédagogie, il nous dit que c'est la catastrophe. Bon, je pense que ce n'est pas la bonne façon de dire, même s'il faut dire, attention, on est dans une situation
préoccupante. Dire que c'est la catastrophe, ça pèse de toute façon aussi sur les marchés, c'est aussi ce cercle vicieux-là.
Après sa déclaration, le spread a augmenté. Donc, vous voyez, c'est pas la situation financière qui s'est dégradée, c'est uniquement parce que, au bout d'un moment, quand vous dites à tout le monde, vous savez,
c'est les écarts de rendement de la dette,
la faillite, elle est pas pour après-demain, elle est pour, même pas pour demain, mais elle est pour aujourd'hui, vous faites paniquer un peu tout le monde, vous faites paniquer notamment les marchés financiers. Donc, vous voyez, pourquoi vous allez prêter à quelqu'un qui vous dit qu'il est au bord de la faillite? Donc, moi, il me semble que la pédagogie qui a été oubliée, c'est pourquoi on en est là. Pourquoi, alors que les autres pays européens arrivent à réduire leur déficit, nous, on a 6% de déficit alors qu'on n'est pas en crise économique. Et ça, cette pédagogie n'a pas été faite. Il y a bien eu des choix qui ont été faits pendant les 5-6 dernières années qui n'ont pas marché. Donc on peut dire que le quoi qu'il en coûte ou les boucliers ont été un peu plus généreux, ça c'est un fait, mais aussi, et c'est bien rappelé par l'INSEE, c'est-à-dire que, vous voyez, ce qu'on a fait depuis 8 ans, c'est qu'on a baissé les recettes publiques. C'est-à-dire qu'on a fait 60 milliards de baisse d'impôts et en pensant qu'en baissant les impôts, ça allait relancer l'activité. Ben non, ça n'a pas relancé l'activité. Et donc, ce qui a dérivé, c'est pas la dépense publique. La dépense publique, on est à 57 points de PIB depuis le mandat d'Emmanuel Macron, mais c'est les recettes qui sont passées de 54 à 51. Et donc, bon, mais voilà, c'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être là où on peut reprendre, peut-être, à des ménages qui ont énormément gagné pendant cette crise, et c'est les plus riches, notamment.
Anne-Sophie Alsif, Florian, pour poursuivre dans ce que dit Éric Heyer, l'un de nos auditeurs sur l'appli France Inter a une réponse à donner. Il dit, moi j'ai plus l'impression que le problème c'est pas tant la dette et le déficit, etc., mais plutôt que l'État ou le gouvernement ne sait pas réellement où va son argent, et surtout, dit-il, c'est la non-évaluation du coût des politiques menées. Qu'est-ce qu'on en dit de cette remarque de Florian, Anne-Sophie Alsif?
Alors, juste, tout à fait, très bonne remarque. Juste pour revenir rapidement sur les milliardaires, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend très justement, là aussi, hein, des études qui sont parues dessus, en voyant le nombre de milliardaires que vous avez dans le monde. Là, ça a explosé, c'est en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Inde, Chine. Quand vous regardez l'Europe, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'ont ces autres pays. Mmh. Alors après, on peut regretter, etc. Mais ce qui est assez intéressant derrière, c'est que la production, l'innovation, vraiment l'outil productrice qui producteur qui crée de la valeur ajoutée, eh bien ça veut dire aussi qu'il est de moins en moins en Europe et beaucoup plus ailleurs dans d'autres places. Et donc cette fameuse croissance et recette qu'on pourrait exiger, puisqu'en effet, hein, ça a été très bien dit, le problème c'est qu'il y a eu moins de recettes, il y a eu moins de recettes parce qu'en effet, il y a eu moins de croissance économique, hein, et donc il y a eu un problème par rapport aux prévisions et ce qu'on attendait en termes de performance économique du pays, qui est moindre. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de millionnaires ou de milliardaires, comme on en a parlé, en Europe, que dans toutes ces zones où ça a complètement explosé. Et l'autre élément qu'il faut rappeler, c'est que même en France, on a le système le plus redistributif au monde. Hein. L'INSEE le montre très bien dans la note qu'il publie chaque année. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important.
Un mot, Éric Heyer, sur ce que dit notre ami Florian, et qui dit, c'est un peu ce qu'on avait entendu lorsqu'on a découvert, en quelque sorte, qu'on avait une dette aussi abyssale, et surtout la rapidité de l'abysse, si je puis dire. Il parle de la mauvaise évaluation du coût des politiques menées. Il a raison, Florian, mais surtout, est-ce qu'on a corrigé ce tir-là?
Alors, oui, alors il faut essayer de comprendre ce que dit Florian. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on n'a pas bien vu, en gros, c'est le fait...
On a mal évalué les recettes, de ce que j'ai compris.
Oui, c'est ça. On a assez mal évalué les recettes. Alors, parce qu'effectivement, on s'est un peu trompé sur la croissance. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, surtout, normalement, à croissance donnée, vous avez normalement des recettes qui correspondent à 1 pour 1. C'est-à-dire quand vous avez 1% de croissance, vous avez 1% de recettes. D'accord? Et bien là, pendant ces années-là, avec 1% de croissance, vous avez beaucoup moins de recettes. Donc, en fait, globalement, bah, la croissance était beaucoup moins riche en recettes. Et ça, c'était relativement difficile à anticiper. D'accord ? Alors, on aurait pu l'imaginer parce que les années précédentes, on avait un peu plus de recettes qu'anticipées. Donc, c'était juste une correction. Donc, ça, c'est un premier point. Bon, OK, c'est un peu une critique que l'on peut faire. Mm-hmm. Mais bon, là, c'est facile de le dire maintenant. Non, moi, je pense que la critique plus importante dans la politique économique, c'est que finalement, pendant ces périodes de crise sanitaire, on a utilisé le déficit pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, en règle générale, et des entreprises. C'est pas fait pour ça, le déficit. Le déficit, c'est pas fait pour soutenir le pouvoir d'achat. Le déficit, c'est fait pour investir, c'est fait pour améliorer les services publics et pas pour soutenir le pouvoir d'achat. Et donc, c'est du mauvais déficit qu'on a fait pendant cette période-là, et c'est normal qu'aujourd'hui, on le corrige. Mais je pense qu'on doit dire on le corrige sans parler de catastrophisme, il faut le corriger parce que on a un besoin de le corriger, et c'est pas ça qu'on doit léguer aux générations futures. Mais vous voyez, on n'est pas du tout dans une situation aussi noire que nous le décrit le Premier ministre.
Anne-Sophie Alsif, est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Christian? Une question, j'allais presque dire bête et méchante, mais moi je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une bonne fois la différence entre créer de la richesse et créer de la croissance?
Oui, pas évident. C'est vrai que souvent on entend les deux. L'idée de créer de la croissance, c'est d'augmenter le produit intérieur brut. Donc chaque année, hein, le Premier ministre l'a rappelé, hein, on va créer à peu près 50 milliards de richesses supplémentaires par rapport à l'année N-1. Donc ça, c'est vraiment la richesse qui est créée chaque année. Et donc la croissance, c'est par rapport à l'année N-1, eh bien, vous allez avoir plus de 0,5%, par exemple, c'est ce qu'on prévoit cette année, par rapport à l'année passée. Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette richesse qui est créée, justement, c'est de savoir, un, la richesse qui est créée, mais aussi derrière les gains de productivité que vous avez. Et d'où vient la richesse qui est créée? Est-ce que cette richesse est une richesse qui vient de l'investissement? Est-ce que cette richesse est une richesse qui vient de la consommation? Quel sous-jacent vous avez dans cette croissance? Et l'une des particularités en France, quand on regarde ce qu'on appelle ces contributions à la croissance, en France, à plus de 65%, c'est la consommation des ménages. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important dans nos modèles de croissance, notamment par rapport aux pays nordiques ou d'autres pays où c'est beaucoup plus l'investissement. C'est-à-dire que là aussi, politiquement, l'idée de faire une politique de chèque ou toujours de plus de déficit, eh bien, ça vous permet de dire, voilà, on fait des chèques, les personnes vont le consommer, et donc tout de suite, ça va faire de la croissance économique. Donc vous avez un retour direct, alors que l'investissement, ça prend des années.
Une question, Eric Ayer, de Delphine, qui est sur WhatsApp et qui dit ceci. Lorsque les baby-boomers vont partir à la retraite, il y aura un grand manque de main-d'œuvre, dit-elle. Donc, a priori, une baisse de la production, une baisse du PIB. Comment rembourser une dette qui augmente alors que la richesse du pays diminuera? N'avons-nous pas devant nous une bombe démographo-économique dans les 10 prochaines années?
Non, ça, c'est sûr que c'est un véritable enjeu, d'accord? Le fait qu'on ait un pays qui vieillit, alors on n'est pas le seul, et même on vieillit un peu moins que les autres, quand on se compare, mais c'est vrai qu'en dynamique, on aura un peu moins d'actifs. Donc c'est pour ça qu'il y a des réformes qui ont été mises en place de façon régulière depuis 1993, des réformes des retraites pour essayer d'allonger la durée du travail, pour garder des actifs un peu plus longtemps sur le marché du travail. Donc ça, c'est important. Et puis, il va falloir, pour compenser tout cela, si on veut garder un niveau, faire des gains de productivité. C'est-à-dire que les actifs, il y en aura peut-être un peu moins, mais il va falloir qu'il soit plus productif. Et donc, c'est là où il va falloir qu'on réfléchisse à comment on augmente notre productivité. Et moi, je pense que c'est ça, les véritables enjeux. C'est-à-dire que si on arrivait à augmenter notre productivité, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et donc, et normalement, un budget, ça doit vous donner un peu le signal de comment on va y arriver. Et donc, c'est un peu ça, c'est pour répondre à une question précédente. Mm-hmm. Donc, quand vous faites des budgets d'austérité à 44 milliards, vous ne voyez pas vraiment où sont les politiques.
44 milliards, c'est un budget d'austérité pour vous
Bien entendu, 44 milliards, c'est 1,5 point de PIB. Vous voyez, on n'a jamais fait ça en France. Et donc oui, si vous faites vraiment... Moi, j'ai un doute sur les 44 milliards, mais c'est une autre question. Mais si vous faites vraiment 44 milliards, oui, c'est un budget d'austérité.
Vous avez un doute sur le fait que ce soit nécessaire d'aller jusque-là,
en fait. Alors, je pense que c'est pas... Vous voyez, le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut faire 120 milliards d'efforts, mais sur 5-6 ans. Vous voyez, donc si vous divisez 120 par 5-6, vous êtes plutôt sur 22-23 à faire chaque année. Est-ce qu'il faut faire tout de suite 44 milliards? C'est une question. Ouais. Mais il y a un risque, si vous faites tout de suite 44 milliards, c'est que vous donnez un gros coup de frein. Et puisqu'aujourd'hui, les de commandes sont vides en interne et qui ne vont pas s'améliorer en externe avec la guerre commerciale, si vous rajoutez un gros coup de frein à 44 milliards, globalement, vous risquez de tomber dans la récession. Et si vous tombez dans la récession, les déficits ne vont pas baisser, mais au contraire, vont augmenter. Donc, ce n'est pas non plus une politique très efficace.
La guerre commerciale, on y reviendra si on a le temps. On a une note vocale de Kevin qui nous attend. Mais je vous ai entendu, Anne-Sophie Alsif, réagir à 44 milliards, c'est l'austérité. Je vous écoute.
Non, ce n'est pas l'austérité. Quand on s'apprête à voter un budget à quasiment encore 5% de déficit, on n'est pas du tout dans l'austérité. Notamment, en plus, quand on regarde, en effet, les sous-jacents macroéconomiques. On est vraiment dans une situation, et c'est ce que dit en effet toute la littérature, on a fait la politique de chèque et de quoi qu'il en coûte pendant des années. Et lorsque la situation s'améliore, normalement, vous devez avoir une politique budgétaire plus restrictive. Ce qui aurait dû être le cas après le Covid. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez 19% de taux d'épargne des ménages, que vous avez des entreprises qui veulent investir parce que les taux d'intérêt ont baissé, que vous avez un pouvoir d'achat qui est revenu. Aujourd'hui, l'inflation est plus faible que l'augmentation des salaires. Donc, vous avez des sous-jacents qui sont favorables et qui expliquent pourquoi vous pouvez avoir une politique budgétaire un peu plus restrictive au regard de tout ce que vous avez dépensé avant, qui était tout à fait inédit. On parle de 44 milliards, c'est inédit, mais je pense que la politique du quoi qu'il en coûte suite au Covid et à la crise inflationniste, c'est aussi inédit. Donc il faut avoir une réponse adaptée à la situation macroéconomique que vous avez laissée. Et là, en effet, ce qui est assez malin avec ce budget, c'est que c'est aussi un budget qui touche à peu près un petit peu à tout le monde. C'est-à-dire que les retraités, on en a beaucoup parlé, sont mis en contribution. L'idée, c'est de prendre à chaque fois 2-3 milliards pour justement ne pas répéter cette erreur du passé et d'avoir un effet récessif.
À tout le monde, les gens qui vous écoutent, Anne-Sophie Elsif, peut-être en doute, puisque dans le discours de François Bayrou lundi, il y avait « nous ferons en sorte que l'effort soit équitable » et ce qui sous-entendait en fait qu'il ne l'était pas, mais qu'on pouvait encore essayer de l'améliorer. Voici Kevin et sa note vocale, on la découvre ensemble.
Bonjour France Inter, petite question concernant la dette. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les personnes qui évoquent l'impérativité de rembourser la dette n'annoncent pas clairement leur volonté de mettre fin au contrat social entre l'État et ses citoyens, puisque la dette aujourd'hui, elle est contractée parce que du coup, nous avons des services publics de qualité qui permettent aussi d'avoir des citoyens qui sont en bonne santé le plus longtemps possible et du coup qui évitent un coût énorme pour la société in fine, contrairement par exemple aux États-Unis. Voilà, merci à vous.
Kaya, est-ce que vous voulez répondre à notre ami Kevin ?
Alors, vous voyez, on a effectivement un modèle social qui est assez développé, mais vous voyez, ce modèle social, c'est un choix que l'on fait, et donc c'est pour ça qu'on a des dépenses aussi publiques qui sont au-dessus de tout le monde. Mais vous voyez, quand vous voulez financer ces dépenses sociales, vous ne devez pas le faire par du déficit. C'est-à-dire que c'est un choix, on décide d'énormément redistribuer, de mieux soigner, de bien éduquer, mais c'est pas aux générations futures à financer ce choix qui bénéficie aux générations d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand les dépenses sont liées à des dépenses sociales, il faut que ça soit financé, que ça soit des retraites, que ça soit l'assurance chômage, ou que ce soit l'assurance maladie, on peut accepter un déficit une année, mais pas plus. Ensuite, vous avez des dépenses publiques qui sont des dépenses d'investissement. Là, on investit dans l'avenir, et là, pour le coup, ces dépenses-là, et même, vous voyez, quand je crée un hôpital, je peux dire que les générations futures vont en bénéficier, et donc, c'est normal que cet hôpital soit financé par de la dette publique. Et donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir, c'est ça le contrat social. C'est uniquement ce qui est de l'investissement. On peut accepter du déficit, ce qui n'est pas de l'investissement, mais qui est juste de la redistribution ou finalement de l'assurance. Il faut que ça soit financé par la génération d'aujourd'hui.
Anne-Sophie Elsif, écoutez ce que nous dit Eric au Standard. Pendant quelque temps, on a eu des taux d'emprunt négatifs. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas profité pour rembourser toute ou partie de notre dette ?
Tout à fait, pas forcément rembourser, mais par rapport à ce qu'il vient de dire, très justement, de faire de la bonne dette. De la dette d'investissement, de la dette d'investissement productif. Et le grand problème, c'est que toute cette période, notamment en raison encore de comment est constituée notre richesse, je vous l'ai dit, c'est vraiment la consommation des ménages, eh bien, le choix de la facilité a été adopté de dire, on va faire des chèques, on va financer le courant pour avoir une croissance économique facile et on ne va pas faire massivement de l'investissement. Pendant que beaucoup de camarades, eux, utilisaient ces taux d'intérêt négatifs ou très très faibles pour faire de l'investissement et donc avoir aujourd'hui une croissance potentielle beaucoup plus importante. En fait, si on peut résumer un peu toute notre discussion, c'est vraiment ça. C'est la question du décrochage et de où je mets mon argent. Pendant que je le mets à rembourser ma dette, je ne le mets pas dans la R&D, je ne le mets pas dans de la production pour créer demain plus de croissance et pour en effet financer nos dépenses publiques qui sont absolument indispensables d'avoir une éducation ou encore une santé de grande qualité. C'est ça le véritable sujet.
En quoi ? Pardon, vous vouliez intervenir, Eric Ayer.
Oui, mais donc on peut être d'accord. Donc du coup, le problème n'est pas la dette, mais la nature de la dette. Donc c'est pas le niveau de la dette, c'est pas même le niveau finalement de la charge d'intérêt, puisque les États-Unis ont une dette plus importante avec des charges d'intérêt trois fois supérieures à notre. Donc c'est comment on a utilisé cette dette ? Et c'est ça le problème, c'est qu'on l'a sans doute mal utilisée. Mais donc du coup, vous voyez que c'est pas des ratios de dette qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec cette dette ? Pourquoi on a fait des erreurs ? Et c'était cette pédagogie qui manque et que le Premier ministre aurait dû dire, oui, on s'est trompé. Depuis maintenant 7-8 ans, on a mal utilisé, finalement, les déficits. Et bien maintenant, il va falloir payer pour cela. Mais oui, ça change de discours.
Je vous entends dans mon oreille, Anne-Sophie Elsif, je vous en prie, allez-y.
Donc je maintiens que c'est un très grand problème d'avoir ce niveau de dette. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous n'avons pas le dollar. Pareil, on avait parlé du Japon, notre dette n'est pas détenue à 100% par les Japonais. Donc si c'est un problème, c'est un problème, quand on a signé un pacte avec d'autres partenaires d'une zone monétaire commune où on doit normalement avoir 60% d'endettement, même si bien sûr ce pacte a été réformé. Mais ça, c'est un problème. Quand vous êtes dans une zone unique et que vous signez, que vous engagez, votre signature est censée avoir du poids eh bien, de ne pas respecter à ce niveau-là, ça, c'est un problème. Et deuxièmement, hein, et là aussi la littérature le dit, quand vous êtes dans cette spirale de la dette où vous, justement, chaque année, cette charge de la dette augmente, que vous remboursez de plus en plus des charges d'intérêt, eh bien, c'est justement toutes ces dépenses et ces financements d'investissement d'avenir que vous ne faites plus. Et vous rentrez en effet dans une spirale où vous financez que le courant et que des dépenses en effet de retraite, de fonctionnement. Et c'est ça aujourd'hui qui guette la France. Donc si le niveau d'endettement, c'est un problème.
Je m'oppose à cela. Hein. On est d'accord.
Bah, j'ai bien compris. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs.
C'est qu'on peut avoir des petites dettes et l'avoir très mal utilisées et donc être très mal noté, et avoir des très grosses dettes, mais l'avoir très bien utilisées et être très bien noté. Donc, je pense que c'est la dette, c'est un instrument, d'accord. Il ne va pas être un objectif et c'est un instrument pour une politique économique. Et donc, c'est pas le niveau qui compte, c'est à quoi on veut l'utiliser. Est-ce qu'il y a un objectif pour les générations futures et pas forcément le réduire à 60 points de PIB.
Mais j'ai compris que c'était aussi un instrument qu'il fallait qu'on soit capable de maîtriser et qu'à un moment, instrument-là est en train de partir tout seul.
On le maîtrisera et les marchés financiers nous aideront à le maîtriser s'ils ont compris à quoi c'était utilisé, si c'était bien utilisé. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi il a été utilisé ou il a été très mal utilisé. Donc, il commence à avoir une défiance et une défiance politique. Vous voyez, les spreads ont augmenté, les écarts uniquement au moment où il y a eu un problème politique en France. Il n'y avait pas de problème de spread avant.
Écart de rendement de la dette, donc encore une fois, les spreads.
Et donc, c'est ça qui inquiète les marchés financiers plus que le niveau de la dette. Alors après, que le niveau aujourd'hui ne soit pas acceptable, on est d'accord, mais parce qu'on a mal utilisé la dette. Hein. Donc, ce n'est pas qu'un problème de niveau. Et encore une fois, Anne-Sophie Alsif parle beaucoup de revue de la littérature, mais la littérature académique n'arrive pas à dire quel est le bon niveau de dette. Et donc ça veut bien dire que globalement, ce n'est pas le niveau qui compte, mais c'est l'utilisation de cette dette.
Alors, pour essayer peut-être de vous mettre d'accord tous les deux, j'en sais rien, mais en quoi, je me demande si je n'ai pas déjà posé cette question d'ailleurs lors d'une émission précédente au sujet de la dette ou au sujet des taux de change, est-ce que tous ces calculs, une fois de plus, peuvent tomber de toute façon sur une décision de Donald Trump? On l'a encore vu hier nous dire qu'il allait faire augmenter les droits de douane si jamais on ne lâchait pas la bride sur le coup des géants de la tech. Est-ce qu'au fond, c'est aussi ça le problème, Eric Heyer, c'est que toutes ces discussions-là peuvent exploser à la seconde où des États-Unis viennent des décisions qui mettent notre économie éventuellement en danger.
Oui, et même plus largement, chaque fois qu'on a dit qu'on avait un problème de dette, il y a eu une crise. Un choc exogène, et puis finalement on n'avait plus de problème de dette, on a pu s'endetter très facilement, vous voyez, c'était la crise sanitaire, c'était la crise financière, etc. Donc peut-être que la prochaine crise, c'est effectivement Donald Trump qui provoque une énorme crise, le PIB s'effondre, et donc du coup on est obligé de faire des plans de relance, et là d'un coup d'un seul on s'apercevra qu'on peut lever de l'argent assez facilement. Donc je pense que c'est là où il faut faire la pédagogie, attention, vous voyez, la dette n'est pas fait pour contrer des chocs de demande, c'est fait pour aller investir, etc. Et donc c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire.
Mais la question vaut d'ailleurs, et y compris celle de la crise, Anne-Sophie Alsif, enfin on entend ici et là qu'une crise financière est peut-être à nos portes, qu'une bulle de l'IA peut peut-être exploser et que quand elle explosera, les répercussions seront partout. Est-ce que c'est dans un coin des têtes, ça, à votre avis? Et précisément pour la raison que dit Eric Heyer, de toute façon il faudra remettre notre métier sur l'ouvrage à ce moment-là, donc ne paniquons pas pour l'instant.
Oui, complètement, sauf que la grande différence, et là la tentation est grande, c'est de dire attention, de toute façon on a des énormes problèmes géopolitiques et donc pareil, regardons ailleurs et ce niveau de dette, ça n'a absolument aucune conséquence. Non, aujourd'hui la situation de la France, quand on regarde la situation de nos partenaires européens, puisque en effet là ce qui est dit c'est que le niveau de dette n'a aucune importance, c'est vrai que nos partenaires européens seraient heureux de l'apprendre, hein. On est dans une zone monétaire, certes qui n'est pas optimale, mais on est quand même dans une zone monétaire. Et on s'est engagé, en appartenant à cette zone monétaire, à avoir un certain niveau de déficit public et de dette publique. Alors après, on peut dire on s'en fiche, etc. Mais c'est aussi parce qu'on est dans cette zone euro qu'aujourd'hui, on peut emprunter à de tels niveaux et qu'on n'est pas justement dans une explosion de notre dette. Donc on ne peut pas dire d'un côté, on profite de la zone euro pour énormément s'endetter et de l'autre côté, on s'en fiche du niveau de dette alors que c'est ce que l'on a signé, c'est l'engagement que l'on a eu avec nos partenaires européens. Donc ça, c'est en effet très compliqué. Et pour la France, comme je vous le disais précédemment, la majorité de notre économie, c'est la consommation. Donc bien évidemment, le commerce international et l'environnement a un impact, puisqu'il a un impact macro, mais il a beaucoup moins d'impact que ce qui se passe en Allemagne ou dans les pays nordiques. Donc aujourd'hui, la situation que l'on a avec ce niveau de dette très important, c'est vraiment une situation franco-française, la conséquence, elle est vraiment en France, et c'est vraiment à nous de faire des réformes et de trouver des solutions, c'est pas le monde.
Après, alors, j'entends ce que dit Anne-Sophie Alsif, c'est à nous de prendre des solutions, c'est pas le monde, mais c'est vrai aussi que ce que nous a enseigné l'histoire, j'allais dire, de ces 5 dernières années, c'est que ce qui fait disrupter, pardon pour le mot, l'économie, de toute façon vient de l'extérieur. Enfin, je veux dire, le Covid a fait disrupter l'économie, la guerre en Ukraine a fait disrupter l'économie, etc.
Finalement, les derniers chocs n'ont pas du tout été des chocs économiques. Hein, et donc, il y a que il faut remonter à 2008 pour avoir un choc économique, mais depuis 2008, c'est des chocs qui sont exogènes, finalement, à l'économie et qui provoquent ces crises. Alors, peut-être qu'on aura une crise liée à une bulle liée à l'IA.
Vous croyez
alors,
une crise de l'explosion de l'IA, vous,
écoutez, ça, c'est effectivement possible qu'effectivement il y ait des survalorisations, mais vous voyez, là, il ne faudra surtout pas intervenir. Mmh. C'est-à-dire que là, vous voyez, si c'est juste une bulle d'IA qui explose, ben ok, ça, il faut passer. Mais attention, je quand même, j'aimerais pas que les auditeurs pensent, comme Anne-Sophie, que je me fous de la dette. Ouais. Non, c'est pas vrai, non, parce que nous, on l'a bien dit à l'OSCE, il faut faire 120 milliards d'efforts. Hein, donc, vous voyez, c'est effectivement à nous, et on l'a bien dit, mais attention, le rythme compte, et attention à ne pas casser la croissance, et attention à ne pas casser non plus les investissements de demain, et c'est les investissements de demain qui feront la croissance après-demain.
Elle ne pense pas que vous vous foutez de la dette, dit Anne-Sophie Alsif, dans mon oreille. Je vous remercie tous les deux chaleureusement. Merci à tous pour vos nombreuses questions.